Alors, merci d'être présent ce soir. Vous êtes très nombreux dans la salle, 25 personnes, peut-être une vingtaine, tout au moins. On a affiché l'assemblée à l'intersection sur un panneau lumineux. Je ne sais pas si c'est ça qui fait que tout le monde a pris conscience qu'il y avait une assemblée ce soir, mais bienvenue, on aime ça, de vous avoir et d'être plus nombreux dans la salle qu'à la table du conseil. Alors, sur ce, nous sommes à une séance ordinaire du conseil de la municipalité du Duhamel, ce lundi 7 juillet, à la salle communautaire sise au 1890 de la rue principale à Duhamel. Sous ma présidence, je suis David Farran. Sont présents Mme Céline Hébert, Denise Corneau, Raymond Bisson, Noël Picard et Gilles Payet. Est absent Michel Lontain, une absence motivée ce soir. Donc, la directrice générale ce soir, qui est remplacée par son adjoint Monique Dupuis, qui est présente, agit à titre de secrétaire d'Assemblée. La directrice adjointe nous informe que le conseil informe le conseil que l'article 148 du Code municipal a été dûment respecté par la transmission aux membres du conseil ou par la disponibilité au bureau municipal de toute documentation utile à la prise de décision, et ce, au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance. Et conformément à notre règlement 2024-04, sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité du Duhamel, cette session est enregistrée audio. Donc, l'ouverture de la séance, il est résolu.
Il y a l'ordre du jour ici, tantôt.
Oui, je vais arriver à l'ordre du jour tantôt. Donc, l'ouverture de la séance, il est résolu d'ouvrir la séance ordinaire du Conseil de la municipalité du Duhamel à 18h40. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Il est résolu que les membres du conseil approuvent l'ordre du jour tel que déposé. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
Merci. Au point 1.3, lecture et adoption des procès-verbaux du mois de juin 2025. Il est résolu que la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 juin et des séances extraordinaires du 10 juin et du 2 juillet 2025 soit exemptée et adoptée telle que déposée. Est-ce que... On voulait retirer un point.
Ça a été corrigé direct dans le procès verbal.
Okay.
Mais ce soir, on va continuer, puis rendu à ce point-là, je pourrais le retirer. 1.3, lecture et adoption du procès verbal, donc du mois de juin, ainsi que les assemblées extraordinaires du 10 juin et 2 juillet. Je vais demander le vote. Est-ce que tout le monde est d'accord pour l'adoption telle que déposée?
Oui. Oui.
Merci. Je vais demander à Monique Dupuis de nous donner les sujets qui ont été discutés lors de nos deux assemblées extraordinaires du 10 juin et du 2 juillet. Monique?
Donc, lors de l'assemblée du 10 juin, il a été discuté, il y a des résolutions qui ont passé concernant le projet d'entente intermunicipale concernant le service de formation régionale des pompiers de la MRC de Papineau. Ensuite, on avait l'élection du préfet en suffrage universel qu'on devait signer une entente, un protocole d'entente. Ensuite, on a déposé le certificat sur la tenue de registre de l'électrification du chemin Brazeau. Ensuite, on a eu d'entériner les ententes des cadets de la SQ avec la municipalité de Lac-des-Plages. Puis, on a aussi entériné l'entente de partenariat partage des cadets de la SQ avec la CEPAC. Ça, c'était pour l'Assemblée extraordinaire du 10 juin. Concernant l'Assemblée du 2 juillet, il n'y avait seulement qu'un point, c'était d'autoriser l'autorisation de présenter une demande d'utilisation des territoires publics et assigner des documents concernant le sentier national. C'est tout.
Merci. aux finances maintenant, au point 2.1, c'est l'adoption des comptes fournisseurs et des salaires nets au 30 juin 2025. Il est résolu que le Conseil approuve les paiements des comptes payés et à payer au 30 juin 2025 pour un montant total de 412 206 $ ainsi que les salaires nets au montant de 66 182 $ et ce, tel que détaillé, à savoir la liste sélective des déboursés payés par chèque, par paiement direct et par prélèvement, et que les dépenses autorisées en vertu du règlement de délégation de pouvoir incluses à ces listes, soit par la même occasion approuvées. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
2.2, le rapport mensuel des revenus et dépenses au 30 juin 2025. Il est résolu que le rapport des revenus et dépenses au 30 juin 2025 soit accepté, sujet à contrôle par le vérificateur nommé par le Conseil. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
Dossier minier. Premier dossier ce soir là, qui a beaucoup bougé dans les derniers jours, les dernières semaines.
Excusez-moi, c'est le dossier essence.
Ça a sauté un.
Non.
Dossier essence vient au point 5 ici.
Ah, à l'heure du jour.
Je vais y revenir selon mes notes, là, mais en gros, on va y revenir au point 3. Soyez-en certains. Alors, pour le dossier minier, d'abord, on se prépare à un référendum, on se prépare à des consultations publiques, et qui dit préparation dit trouver les personnes qui vont participer à ce processus-là, dont la compagnie Lumico. C'est eux qui nous présentent un projet et on souhaitait qu'ils participent au processus référendaire pour lequel on prévoit le camp du oui, ceux qui souhaitent le projet, et le camp du non. La loi prévoit deux camps dans ce processus-là. Et je voyais qu'avec mon homologue Paul Bourgeois de Lac des Plages, le porte-parole également de notre alliance, on n'avançait pas beaucoup avec nos discussions avec Lumico, fait qu'on a fait appel au ministère des Ressources naturelles qui octroie les claims pour leur dire, pouvez-vous nous aider à rentrer en communication avec Lumico, à leur faire comprendre le processus et voir s'ils vont jouer un rôle dans ce processus. Alors, on avait prévu une rencontre le 27 juin et par l'entremise de Gail Sullivan, la directrice générale du ministère des Ressources naturelles. Et Mme Sullivan a reçu la réponse tard le 26 juin au soir que Lumico ne participerait pas au processus, qu'il souhaitait travailler avec les différents paliers gouvernementaux, encourager la population à les contacter s'ils souhaitent l'information ou aller sur leur site, mais qu'ils ne feraient pas de rencontre publique dans le cadre de leur projet minier La Loutre. Alors ça c'est confirmé, c'est écrit, et le bureau du député est au courant, le ministère des Affaires municipales est au courant, et le ministère des Ressources naturelles sont au courant. Lumico n'est pas là cet été, à moins d'un bouleversement, d'un renversement de leur part. Ils ne seront pas partie prenante du processus. Il y a eu une planification, puis on continue demain soir avec l'Alliance. Là, à 5 heures, j'ai une rencontre avec les 5 municipalités pour planifier notre rencontre du 19 et du 20 juillet. Donc, en gros, on commence le 19 au matin avec Lac des Plages. On s'en va à Saint-Émile-de-Suffolk ensuite. On s'en vient à Duhamel le dimanche matin, le 20 juillet. On s'en avec Lac Simon en même temps, malheureusement, heureusement. Et on finit ça avec Chenéville le 22 en soirée. Ce n'était pas possible pour Chenéville de le faire dans le cadre du 19-20. Donc, on va se coordonner. L'objectif, c'est de avoir le même message, la même information pour la population, la même formule de présentation publique, donner la chance aux citoyens de comprendre le projet, de questionner le projet, de comprendre le pourquoi d'un référendum et son processus. Quoique, il y a beaucoup de travail qui se fait dans ce sens-là également, sur le terrain et par la municipalité. Il y a eu une rencontre en fin de semaine à Chénéville qui a provoqué une réaction des médias. C'est dimanche matin. Les médias ont su, Radio-Canada a su qu'il y avait une rencontre à Chénéville et ils se sont déplacés d'Ottawa pour venir à cette rencontre. Ils m'ont contacté très tôt, dimanche matin. Moi, je n'étais pas au fait de cette rencontre-là. Je leur ai dit, ce n'est pas organisé par l'Alliance, mais je ne doute pas qu'il y a un mouvement citoyen puis ils s'organisent entre eux, là. Alors, ça a généré l'intérêt de Radio-Canada à deux niveaux. Un reportage sur place, auquel j'ai participé, mais également les médias écrits. Radio-Canada souhaitait écrire des articles là-dessus. Et j'ai reçu un autre journaliste qui voulait rentrer plus dans le détail, et plus la documentation, et c'est quoi la question référendaire, etc. Et on a également une autre journaliste qui souhaite savoir qu'est-ce qui se passe avec les autorisations pour les travaux d'impact qui vont avoir lieu tard cet automne pour extraire 250 tonnes de matériel brut du territoire. Alors, ça passe. Et plus tard aujourd'hui, par rapport à Radio-Canada, j'ai Montréal qui représente le téléjournal national. Eux autres, ils veulent venir, là. C'est pas fait, mais ils s'en viennent sur le territoire pour faire une couverture du référendum. Et ça, ils n'attendent pas le 31, là. C'est cette semaine ou la semaine prochaine qu'ils s'en viennent. Ça m'indique que ce qu'on est en train de vivre à Duhamel, puis à Lac-des-Plages, puis dans le nord de notre petite nation, le référendum comme tel, c'est unique au Québec. Là. C'est une première au Québec de questionner la population sur l'acceptabilité d'une mine. Et ça dépasse un peu notre petit village. Ça intéresse pan-canadien, les gens veulent savoir comment on se débrouille, comment on réagit à ça, quelle action on pose, quelle volonté on a de s'affirmer. Alors, le référendum est non seulement important pour nous à Duhamel, mais pour la nation, reflète une nouvelle vision de ce que le gouvernement devrait porter comme attention sur la volonté des citoyens. Alors, j'en profite pour vous dire, c'est important le référendum. Faut vous inscrire si vous voulez avoir le droit de vote. C'est un processus qui relève pas du conseil municipal et de l'Alliance. C'est Élections Québec qui gère un référendum. Il y a une présidente d'élection qui a été nommée à Duhamel. Dans ce cas-ci, c'est Mme Dupuis. Et c'est elle qui gère la façon de fonctionner. Une grosse tâche parce que on est regardé de partout, mais la population, je sens, là, dès vendredi, j'entendais dans les bureaux là, que le téléphone se fait aller, puis les citoyens viennent au comptoir et on est en plein mois de juillet, en plein mois d'août. Alors, je lève mon chapeau aux employés, à la présidente, mais à tous ceux qui vont contribuer à cette tâche-là. En plein été, c'est pas facile de faire ce travail-là. Ils ont le goût de prendre des vacances, eux autres ici. Puis ils ont d'autres choses à faire que faire un référendum qu'on n'a jamais eu à Duhamel dans les derniers 20 ans. Alors, chapeau, mais la tâche est importante. Puis on s'attend à rien de moins que l'excellence. La barre est haute, là. Mais... Mais on se doit de réussir. On le doit à la population. Puis, j'irais jusqu'à dire, exceptionnellement, on le doit à la nation. Parce qu'on est en train de poser des gestes qui sont d'une portée nationale, d'après moi. En gros, c'est ce que je voulais dire sur le référendum sur les mines. Oui, il y a 104,7 aussi qui, lundi matin, se sont réveillés à dire « ben, il s'est passé des choses en fin de semaine ». Puis là, ils ont voulu faire des entrevues que j'ai réalisées. Là. Alors, vous avez peut-être vu télé, radio, médias écrits. Moi, j'ai rien vu de rien, là, mais je sais ce qui a été écrit parce que j'étais là à fournir de l'information à ces gens-là. Et on verra où ça nous amène. Mais d'après moi, ces gens-là vont être encore là au mois d'août. Et ils vont s'attendre à ce que le 31 août, la réponse des citoyens en termes de participation soit à la hauteur de ce que tout le monde s'attend. Parce que moi, je serais très déçu qu'il y ait un manque d'intérêt. Je ne m'attends pas à ça du tout, là. Mais c'est quand même le 31 août, on est en plein été, de demander aux gens d'aller s'inscrire, d'aller s'assurer que notre inscription est bien enregistrée sur la liste électorale, puis de venir voter. C'est beaucoup, mais le dossier est important. C'est compris? Dans le rapport du maire, pour faire vite, je voulais juste vous dire que le 31 août, normalement, ça serait la fin de semaine de la fête des citoyens. On a une tradition qui s'est bâtie depuis quelques années et on l'a reporté d'une semaine. Ça sera peut-être l'occasion de souligner l'effort de chaque citoyen de s'être inscrit et d'avoir voté au référendum, indépendamment de la façon que les citoyens veulent voter. L'important, c'est de voter. Alors, le 6 septembre, il va y avoir fête. On participe toujours avec le club d'âge d'or qui en profite pour faire un genre de souper blé d'Inde, hot dog peut-être. Là. On verra comment ils veulent organiser leur souper. Ils vendent leurs cartes de membres aussi. Même les jeunes de 55, 60, 65 qui ont le droit de s'inscrire. Je ne connais pas la limite, là. Mais chaque année, on baisse l'âge d'inscription. Et on a aussi, puis je vais laisser Monique l'annoncer, depuis 2 ans, on a un groupe de musiciens locaux, Derkiz puis Denis Hull, avec ses musiciens viennent nous faire un spectacle. Mais cette année,
on va avoir la chance d'avoir Madame Marie-Ève Brosseau, qui vient du Lac Doré, qui chante très bien. Elle donne quelques spectacles. J'ai été à voir un spectacle à Ripon, puis elle est très bonne. Elle chante beaucoup de chansons populaires. Très intéressant.
Puis elle s'est inscrite, elle attend la réponse à savoir la voix de cette année, à savoir si elle va faire partie des finissants de ce concours. Alors, on a bien hâte de la voir, puis on vous encourage à vous déplacer le 6 septembre. Et là, je reviens, merci Mme Dany, là, de me rappeler que le dossier de l'essence était au point 3. Le dossier station de service a bougé énormément ces derniers temps. Ce que je peux partager avec vous, c'est que tous les documents qui nécessitaient la création d'une coopérative ont été signés par les administrateurs en place par intérim, le temps de créer un conseil d'administration en bonne et due forme. Alors, le conseil d'administration a signé les documents qui fait en sorte que notre coopérative pourrait s'appeler, si les membres le souhaitent, là, la coop de solidarité de Duhamel, avec mission là, d'offrir les services d'essence sur le territoire. Tous les formulaires donc ont été signés, envoyés. Et on attend une réponse vers le 25 juillet à peu près, selon les personnes qui nous accompagnent. En Outaouais, on a une coopérative régionale de solidarité qui aide la création. Et ces gens-là nous disent que la réponse devrait arriver à la fin juillet, ce qui nous permettrait de faire une assemblée générale de la création de notre coopérative vers la mi-août. Et là, on a un été hein, avec les assemblées, le référendum, la coopérative. Fait que vous êtes excessivement sollicité et on va faire avec. Là, là je dois rencontrer les membres du CA pour voir comment on va mettre en vente les cartes de membership, là, excusez l'anglicisme,
d'adhésion,
merci. Alors, c'est il va falloir avoir des membres qui vont pouvoir s'inscrire et voter lors de cette assemblée-là. Fait qu'on s'attend à une belle participation de la population. J'en doute pas, là. Et on va pouvoir, de là, passer à l'étape d'offrir à nouveau les services. Là. Alors, c'est un processus qui est relativement long parce qu'il va y avoir des études environnementales, des études d'évaluation de marché, une étude de plan d'affaires pour s'assurer que ce qu'on va déposer comme stratégie soit viable à long terme. Ce n'est pas une histoire d'un rêve de nuit ou de 6 mois ou d'un été. Alors, on va travailler. Dans la salle, il y a François Dulon qui est ici, qui travaille dans ce comité-là, qui joue un rôle très important, qui est un instigateur même du mouvement. Et il y a Denise également, Corneau, qui joue un rôle très important sur le comité. Il y a plusieurs joueurs dans le milieu, là, autant le monde des affaires qui se sont impliqués, étonnamment même, je dirais. Je reçois des appels de gens d'affaires qui me disent, sans enlever la place à personne, j'aimerais aider et j'aimerais mettre l'épaule à la roue. Puis c'est vraiment, vraiment encourageant pour le comité. On est une gang d'emballés, bourrés de talent, puis une belle collaboration avec la municipalité, qui n'est pas toujours le cas, à ce que je comprends, dans d'autres municipalités où la coopérative est laissée à elle-même. Alors, souhaitons-nous bonne chance dans le dossier de l'essence, parce que ça donne la mauvaise image d'une municipalité qui est en dévitalisation quand on perd les services, puis c'est pas le cas. La municipalité est en croissance démographique importante. On a un dynamisme dans le récréotourisme majeur. Alors, il ne faut vraiment pas perdre cet atout-là. Fini avec mes commentaires. Je vais vous laisser une première période de questions avant la correspondance. Alors, le micro est à vous si vous voulez prendre la parole. Première période de questions. La réunion est courte, là. S'il n'y a pas de période de questions, ça va défiler, madame. Bonjour, madame.
Je mets un petit peu un contexte. Hier, j'avais une rencontre chez moi des gens qui sont venus parler du Mirafelaipi et autres plantes envahissantes, parce que c'est moi qui est en charge pour la PLG de ce dossier-là, de la prévention et inspection. Puis, des gens en ont profité. C'est sûr qu'on a parlé des mines aussi, on a parlé de plusieurs choses, mais moi, je me fais le porte-parole un peu de ces gens-là aujourd'hui pour vous dire leurs inquiétudes. Mm-hmm. Donc, un premier point, c'était, est-ce que ce serait possible de faire un rappel pour les interdictions de feux d'artifice? Parce que là, la période des vacances commence, avant les fins de semaine, puis surtout les vacances de construction, parce qu'on a remarqué que depuis une couple de semaines, il y a eu une recrudescence un petit peu des feux d'artifice. Donc, on se demandait peut-être sur le panneau à mobile ou une autre façon de faire, mais de faire un petit rappel, peut-être aussi sur le site de la municipalité, mais au niveau des feux d'artifice.
On vient d'envoyer un bulletin, puis on a un rappel
là, sur ça. Super. Ensuite, là, je vois en vrac, là, il y a des inquiétudes au niveau du quai public pour la Gagnon, que le débarcadère, je sais qu'on en a parlé déjà, je reviens encore avec ça, que le débarcadère, la barrière du débarcadère n'est pas trop efficace dans le sens que c'est quand même, je dirais peut-être pas tous les détails, là, mais c'est assez facile de l'ouvrir là. Donc, les gens sont inquiets à ce moment-là, à ce niveau-là, parce qu'il y a quand même pas mal d'achalandage. Ça a l'air d'être des gens qui viennent de d'autres lacs, d'après ce qu'on rapporte, les gens qui vivent près, qui voient ça. Puis, bien là, c'est sûr que les gens n'ont pas été demandés est-ce que vous avez été inspecter votre bateau, tout ça, mais puisque c'est assez facile d'ouvrir la barrière, on se pose des questions.
À propos de ça,
oui.
Ça s'ouvre juste avec la clé de
tout. Oui, mais je vais vous arrêter. Je vais laisser la parole au micro. Merci.
C'est bon, mais...
Puis donnez pas la réponse à comment là, ouvrir la porte.
Mais c'est pas mal ça, j'en ai dit, oui.
Bon,
il fallait
que
c'est correct. Il y a une autre inquiétude qui par rapport vu qu'au lac Simon, c'est maintenant 110 $ pour mettre le bateau à l'eau et que nous, c'est 50 $ ben là, les gens ont peur que tout le monde s'en vienne au lac Gagnon.
Ah, c'est ça.
Qui est comme une d'emballement, d'entraînement, parce que là, c'est moins dispendieux, puis que là, c'est peut-être ces gens-là qui vont chercher à ouvrir la barrière sans en payer. Puis si, en plus, la barrière est facile à ouvrir, puis qu'au lac Simon, c'est moins une passoire qu'au lac Gagnon, ben on s'attire un petit peu de problèmes parce que nous, avec on a beau vouloir faire de la surveillance, mais ça part par le point de départ, c'est vraiment l'accès au lac. Donc, on ne veut pas le privatiser, mais on voudrait que la méthode soit efficace. Il y avait aussi une autre inquiétude au niveau des hydravions. Je sais que aussi, on en a déjà parlé, mais là, je le dis officiellement, je vais t'enregistrer au micro. Donc, semblerait qu'il y a des cours de pilotage et que cette compagnie-là fait des essais et des départs et des...
Des touch and go, là?
Oui, au lac, donc dans la grande partie du lac, que moi, je ne vois pas de chez moi, mais que les gens me rapportent que ça se fait.
Avez-vous un nom de compagnie?
Non, c'est ça qu'on aimerait savoir.
OK, je vais...
Puis de voir, essayer de voir, peut-être juste de les conscientiser. Et surtout que si c'est inévitable qu'ils viennent faire des touch and go, ben qu'ils n'aillent pas dans un lac contaminé avant, tu vois. Tu sais, l'important, c'est
qu'ils choisissent
les lacs qui sont sains, au moins. Ouais. Je comprends qu'ils ne veulent pas aller dans un lac où est-ce qu'il n'y a personne, puis qu'il n'y a pas de surveillance, personne pour les dépanner, s'il y a quelque chose, je comprends. Mais il faudrait qu'ils sachent où aller ou où ne pas aller, puis ça, peut-être que ça ne s'est pas rendu jusqu'à eux, là. Ça peut être un bon point. Et c'est revenu aussi encore l'histoire d'avoir une trousse des règlements de la municipalité pour les nouveaux arrivants et pour les gens qui font de la location aussi, soit Airbnb ou autre, parce que les gens qui arrivent sont peut-être pas toujours au courant. Donc, il y avait des questions dans le passé, je pense que ça s'est déjà fait dans le passé aussi de donner, il y a 20 ans, je pense que ça se faisait, de donner une trousse avec les nouveaux propriétaires, une trousse de...
On écrit.
Oui, avec le compte de taxe. Quelque chose
là, on écrit au nouveau arrivant. Ouais, OK.
Ça fait le tour de l'idée.
Bien, merci. Mais avant, par rapport aux 110 $ et aux 50 $ là, il y a un grand changement à Lac Simon où chargeaient la tarification était basée sur la durée de la visite. Exemple, une journée coûtait moins cher qu'une semaine, puis une semaine coûtait moins cher qu'un mois. Ils facturaient autant. Et là, ils se sont fait dire, tu ne peux pas faire ça. Alors, ils ont converti leur réalité au coût que ça leur représente. C'est 110 $ pour eux. Nous, c'est 50. Mais c'est 50 chez vous, au lac Gagnon, comme au lac Simon chez nous. Alors, si quelqu'un veut aller au lac Simon puis pas payer 110, normalement, ils vont aller à Duhamel et payer 50 $ maintenant, si quelqu'un veut ne pas payer 50 $ et utiliser tous les moyens possibles technologiques pour ne pas le payer, c'est un autre défi. On a longtemps essayé de s'arrimer avec lac Simon depuis 15 ans peut-être, là. Mais leur vision de tarifer sur le temps, on ne pouvait pas accepter ça ici. Alors, on avait deux divergences. Maintenant qu'on se rapproche énormément sur la méthode de taxer, là, sur la mise à l'eau, peut-être qu'on va pouvoir s'aligner. Le défi, c'est que peut-être que ça leur coûte plus cher à eux, la mise à l'eau, que nous, à Duhamel. mais il va falloir visiter peut-être que le 50 $ est trop peu pour se rapprocher de l'heure. Parce que on est conscient, j'en profite pendant que vous parlez à la mise à l'eau, il y a oui la guérite, là. Il y a nécessairement la descente elle-même qui va nécessiter des investissements parce qu'on a fait une demande d'intervention auprès du ministère de l'Environnement. J'ai été questionné le 2 semaines passées et on a fait des démarches pour avoir l'autorisation d'aller jouer dans cette mise à l'eau pour replacer les tapis puis mettre du gravier net, là, des poches ou quoi que ce soit. Mais à long terme, ça, c'est à court terme qu'on aimerait avoir une réponse. Mais par la suite, il va falloir trouver des solutions plus permanentes, ce qui peut vouloir dire des investissements de couler du béton. Alors, ce qui va augmenter les charges à la municipalité, qui veut dire qu'on va augmenter les frais aux visiteurs. Les citoyens, toujours gratuits, parce que vous le payez à travers votre compte de taxes. Ce n'est pas une façon de privatiser les mises à l'eau, c'est de dire... Chaque utilisateur doit payer sa juste part. Vous payez votre compte de taxe, vous avez payé. Le visiteur qui vient une fois tous les 3 ans a à payer sa part. Donc, on a un travail à faire. Puis, on n'oublie pas qu'on a fait une demande d'avoir un poste de lavage sur place. Parce que la réglementation, c'est une chose, mais la sensibilisation, dire lavez vos embarcations, puis... Allez-y. C'est ce qui est le plus important, c'est la sensibilisation. Alors, merci pour avoir partagé votre rapport.
Un point que j'avais oublié aussi, c'est que les gens, étaient pas mal tous unanimes que pour avoir un moyen qui est le plus efficace possible, il faudrait qu'il y ait un employé à temps plein comme l'Oxy. Ouais. Ça, c'est vraiment plus efficace.
Oui, un employé ou des employés parce que...
Des employés, mais qu'il y ait quelqu'un en permanence au débarcadère, à ce moment-là, ce serait vraiment la solution idéale.
Oui, c'est noté. C'est noté. C'est notre réalité. Oui, vous venez au micro à la suite, un après l'autre. En vous nommant, madame, s'il vous plaît.
Suzy Lamouret, bâtiment de la section de Jeannette. Je vais faire un copain de moi, copain, c'est vidange. Depuis aussi longtemps que je me souviens, quand arrive la mi-octobre, l'employé qui ramasse les ordures ménagères et les bacs de récupération, parce qu'il ne veut pas aller ouvrir tous les bacs pour rien pendant des mois, ben il les bascule. Toujours. Si on les relève au mois de mai, si les gens ne viennent pas, ils les rebasculent. Le problème, c'est que durant l'hiver, ben, la charrue brise les roues des bacs. Là, quand je suis revenue au mois de mai, j'ai ramassé ceux de ma voisine qu'on avait laissés là, tous en mi-octobre. Puis la roue du bac de récupération était cassée. Puis c'est une voisine de 82 ans. Y a-t-il d'autres moyens? Moi, j'ai pensé à deux. Pour que les vidanges soient ramassées, les ordures ménagères, les bacs de récup, pour qu'ils soient ramassés, il faut que la poignée soit face vers le chemin. Ben, s'il est tourné de côté, on pourrait considérer qu'il n'est pas responsable de vérifier s'il y a quelque chose dedans. Puis l'autre technique, ben, vous souvenez-vous de la petite corde puis le petit drapeau, là. Puis bon, ça veut dire qu'il faut que la municipalité achète des petites cordes, des petits drapeaux. Mais à ce moment-là, ben, quand on l'ouvre, il y a quelque chose. Parce que... C'est pas très grave que tout le monde sache que je suis seule chez nous, là, mais à 1 km à ronde, tout le mois de mai, je suis tout seul. Puis j'aime pas toujours ça, que ça se sache. Fait que je remonte les poubelles. Ils remettent tout à l'envers tout le temps, puis ça les brise.
Oui. Deux, trois choses par rapport à ce que vous dites. D'abord, je trouve intéressant que vous proposiez des solutions. Mm-hmm. Ça, j'aime ça beaucoup. Mais votre solution. Rendu à l'hiver, on va connaître le même problème. Qu'il soit couché ou debout, quand la neige va arriver puis que la charrue va arriver, ça va endommager nécessairement la même roue que vous...
Mais il ne peut pas juste les tasser un peu?
Bien, il y a tassé. L'idée de mettre de côté puis laisser debout, j'aime beaucoup ça, mais le règlement stipule que ça ne doit pas rester au chemin.
faudrait qu'ils soient enlevés.
Bien, si ils sont au chemin, c'est parce qu'il y a un besoin d'être vidangé. Puis normalement, ils ne devraient pas être sur le bord de la route. Ils ne devraient pas être dans l'emprise du chemin. Ils ne devraient pas être endommagés par la chose qui passe. Ça, idéalement. Mais la réalité, c'est que les gens souhaitent avoir... Mais ça nuit aussi au paysage, parce qu'on aime bien... On ne veut pas avoir de pancartes publicitaires, puis on arrache les pancartes de tous les commerçants qui veulent faire de la publicité. Mais en même temps, on tolère des bacs à tous les 40 pieds ou à tous les 200 pieds. On a des bacs. Alors, on a une problématique. Là, mais on prend bonne note du problème de les coucher. Ce n'est pas la solution, si ce n'est que pour des fins de sécurité, si je comprends bien, parce que vous sentez que vous êtes seul et que tout est couché. Fait que si on utilisait la même technique de renverser ou de dire, s'il n'est pas en position, on ne le ramasse pas. Si quelqu'un nous appelle en disant, pourquoi tu n'as pas ramassé mon bac, moi ici, bien, on va lui dire, c'est parce que tu ne l'as pas mis correctement au chemin.
J'ai une autre question.
Vas-y, allez-y.
Moi, faut que je monte une côte qui est un petit peu haute. Alors, je me suis acheté un bac qui est petit, mais il est brun. Tu sais, c'est le bac là, pour le compost, il est brun. J'ai écrit dessus dans le groupe poubelle que l'année passée, je suis allée voir le monsieur. Si ma mémoire est bonne, il m'a dit « Ah, mais je peux pas le ramasser, celui-là, il est trop petit. » Puis il l'a testé, puis ça marchait. Mais là, cette semaine, il ne l'a pas ramassé. Alors, les deux autres étaient ramassés parce qu'on est quelques-uns, puis le mien, il était plein encore. Est-ce que c'est parce qu'il était trop petit?
Mais peut-être qu'il l'avait mal placé.
Non. Il était en plein milieu des autres, puis il était du bon côté. Puis là, je suis venue pour le reprendre. Je l'avais vu, mais deux autres sont vides, puis celui-là, il est plein. Et ma voisine, toujours la même que celle qui s'est fait casser une roue, a dit, ouais, mais dis-moi, j'en ai une dans une grosseur de la tienne. Elle dit, je pense qu'il pense qu'il ne peut pas les mettre sur le camion. Elle dit, peut-être qu'ils sont trop petites. J'ai vérifié, vous mettez sur le site un maximum de 360 litres, je pense. Là. Je sais pas. Ouais. On parle de maximum, mais il n'y a pas de minimum. S'ils me disent, Suzy, il est trop petit ton bac, ben, comme l'autre, je mets un sac, puis je vais le monter. Il voulait savoir s'il y avait un minimum.
Ben, il peut y avoir des changements d'employés avec les vacances ou les congés, un congé de maladie. Je vais vérifier, je vais demander à l'administration de valider.
Ben, tu t'informes, je peux téléphoner pour avoir la
réponse. Mais donnez-nous les coordonnées à la fin de la rencontre à la secrétaire. Ça. Bon, ben, on va vous revenir avec le pourquoi chez vous.
Merci.
Oui, bonjour, François Dudon-Gagnon. Je voudrais renseigner sur le dossier que madame a inscrit pour la guérite, de savoir, on a encore des monsieur Dumais, c'est lui qui maintenant qui est le poste de la vache.
Oui.
Bon. On pourrait poser la question, y a-t-il bien débattu au conseil? Parce que madame a dit qu'il y a des gens, des contrevenants qui débordent là-bas. Je ne savais même pas, je suis un résident du domaine, puis je vous dis, je me fais un devoir s'il y a des amis qui viennent me visiter avec un bateau. C'est les mesures de gaz, c'est là pour descendre pas à l'eau. Fait que je pense à toute cette conscience de prendre le taureau par les cornes. On est toujours en train de materner quelqu'un, mais je vais le materner parce que j'aime mon lac, puis je suis content de naviguer dessus, puis montrer aux gens. Je pense qu'on a un devoir pour de nous. Si on sent la guérite, prenons le taureau par les cornes, mais réparons ça, venons. Je sais, ta technologie, je suis même pas au courant que si ta force est un peu, c'est incroyable, mais. C'est pas ce qu'on de savoir si on les brûle pas, c'est quelqu'un, des citoyens nous, qui pèse les oreilles des autres. C'est ma compréhension. Mm-hmm. Moi, une tierce personne sans 1007, il faut qu'il sache le truc. Il faut que j'y dise. Sans ça, il ne sait pas. Non? Ou
ben, je ne sais pas. Vie, moi, je peux pas affirmer que vous avez 100% raison à savoir
non,
que...
Non, mais
c'est nécessairement quelqu'un du lac qui a donné le message.
Ouais.
Je ne peux pas confirmer ça. La technologie, elle est connue. Internet donne bien des trucs. Les gens s'essaient.
L'homme est à l'homme, on le sait. Non?
Ouais, trial and error, là, à un moment donné, tu réalises que si je suis capable de sortir du lac puis ça s'ouvre, bien, l'inverse doit être vrai aussi, puis là, tu fais 1 plus 1 égale 2. Par rapport à la tâche d'inspecter les bateaux, un contrat qu'on a donné ici dans le périmètre urbain et le lavage. C'est deux choses. Le lavage est gratuit, alors n'importe qui peut aller laver sans qu'on ait un compte rendu, à savoir s'il y a eu 5 lavages, combien de fois la machine a été utilisée. Okay. Si elle a été utilisée pour un bateau ou un auto ou un camion, ça, on ne sait pas. C'est gratuit et les gens ne sont pas à demander l'autorisation. Puis, la machine ne donne pas un reçu comme quoi il a été lavé, donc il y a un laissez-passer pour les lacs. Mais on a une problématique à régler là-dessus, puis on essaie de trouver des solutions, puis on vous entend. On sait que c'est précieux pour vous. Prochain micro. Monsieur Dubé.
Ça va bien?
Ça va bien, merci.
Pour répondre un peu à sa réponse, à ses questions, moi, ça fait 2 fins de semaine en ligne que je me déplace au débarcadère. Je laisse mon téléphone dans la porte quand je vois que le camion, on ne l'a pas vu, ou l'auto, on ne l'a pas vu passer chez nous. J'ai pas eu d'appel, mais je sais qu'il y en a un qui va. Je vais finir par le pogner. Puis j'ai pas vu. J'ai vu une fois sur le. Sur, je veux s'enviser aussi sur de la Gorgon. Un résident qui a dit ben va pas là, va-t'en à le bout à l'Orignal, tu peux descendre. L'Orignal, je crois en tout cas. Vous savez où ce que vous voulez dire?
Les supposés de parler.
Non, ils l'ont envoyé là. Ça, j'ai pas été voir encore.
Ouais.
L'autre affaire aussi, que je vois des citoyens là-bas qui viennent nous voir pareil, même s'ils n'ont même pas besoin de venir laver le bateau ou pas, mais ils viennent nous voir pareil, ça, j'ai trouvé ça cool. Puis, il y en a que... Un exemple, mettons, j'ai pas vu, depuis qu'on est là, j'ai pas vu personne qui m'a dit « Je suis à Airbnb à telle place ou Airbnb à telle place, je veux mettre mon cidou ou mon bateau, j'en ai pas vu un. » Je trouve ça anormal parce qu'il y en a des Airbnb à la Gagnon. Puis il y en a des petites embarcations qui emmènent des cibous surtout. J'en ai pas vu un de me voir pour demander la permission. Ou faire laver ou payer la note. Fait qu'il y a peut-être des lacunes là aussi. Peut-être je sais pas qu'est-ce qu'ils font les associations dans le lac, mais peut-être qu'ils pourraient nous appuyer. Je sais qu'ils font beaucoup de travail, mais. Vérifier ça un petit peu plus, parce qu'on ne peut pas tout faire pareil. Même si vous voulez tout faire en musculation, on ne peut pas tout faire. C'est sûr qu'il va y avoir des lacunes.
Mais je ne sais pas combien vous avez de visiteurs. Mettons que vous en avez deux dans une journée, et c'est un visiteur. S'il ne vous dit pas qu'il est un visiteur Airbnb...
On pose la question. Pose la question okay. À tout le monde. Oui.
Parce que je t'ai pas dit, peut-être qu'il en passe puis vous ne le savez pas.
Je pose la question où il était à pêche avant, où est-ce que vous avez été avant. Je pose toutes ces questions-là, je les sensibilise. Parce qu'il y en a qui arrivent de mauvaise humeur, qui disent on paye. Fait qu'on essaie de les expliquer, puis quand ils sortent, ils sont heureux d'entendre qu'est-ce qu'on veut
le
faire.
Le pourquoi.
Les pêcheurs, en passant, j'ai jamais eu de problème avec aucun pêcheur. Ils sont très, très avenants avec le bateau. Ils viennent me montrer eux-mêmes les viviers. Les plugs, ils ne veulent pas que les lacs se magasinent, nous autres, on veut pêcher.
Okay.
Puis on les dessert à 5 h le matin pour qu'ils peuvent embarquer sur le lac depuis de bonne heure. Mais le bateau, ils sont tout le temps sur la coche.
Okay.
Beaucoup. Fait que les pêcheurs sont corrects en dehors de la date.
Parfait. Puis, moi, on m'informe, l'administration m'informe qu'une lettre a été envoyée à tous les propriétaires d'Airbnb pour les sensibiliser sur le sujet des mises à l'eau.
Il y en a
une caméra.
Puis vous avez jamais pris personne à essayer de...
Le casser, la guérir?
Soit casser ou, tu sais, la manière qu'ils font... S'il y a des caméras...
Oui. Ouais. Oui, il y a des caméras.
Je ne surveille pas les caméras, là, c'est pas...
Les derniers temps, Liette Canville, la direction générale, me mentionnait que le site pour visualiser était problématique, puis on cherchait à régler ce problème-là. Fait, les données sont disponibles et on a des caméras. On voulait s'assurer qu'il y ait autant de caméras nécessaires pour couvrir l'ensemble du territoire. Mais oui, il y a une caméra qui est sur les lieux du site de la mise à l'eau. Puis oui, ça peut régler une partie du problème. Je sais pas si la caméra, elle est publicisée, mais ça serait peut-être une des sensibilisations qu'on peut faire aux citoyens. C'est dire, souriez, vous êtes filmé. Ça va les gêner, en effet.
Puis le débarcadère, oui, il est magané. Tantôt, vous disiez que ça va être réparé, mais...
Bien, on a une demande auprès du ministère de l'Environnement, parce qu'on ne peut pas aller jouer dans l'eau, surtout pas une municipalité, je vous le dis, là. Il faut avoir plus que les gants blancs pour aller jouer dans l'eau, fait que ça prend une autorisation. L'autorisation, la demande a été envoyée. Okay. On attend une réponse là-dessus, là. Pour juste placer les tapis.
Oui, parce que c'est dangereux en ce moment. Un enfant, voilà, il peut tomber. Moi, j'y ai été, je l'ai vécu, puis j'ai fait ça. Ouais. C'est ça, c'est toute la vie, là.
Et l'argumentaire de l'urgence a été souligné dans la requête.
Puis moi, je revenais pour la phase de sonde. Juste une question comme ça, parce que les autres conseils d'avant, c'est toujours 6 à 9 mois, ça va être fait. 6 à 9 mois, ça va être fait. Si on écoute les enregistrements, ouais. L'essence, c'est toujours 6 à 9 mois. Là, on serait rendu à combien de mois quand vous dites qu'on ne sait pas encore, ça risque d'être long, c'est un procédé long.
Ben,
c'est-tu plus que 9 mois, c'est-tu un an?
Oui, bien, ce qui a été long, moi j'ai suivi l'évolution de la volonté de la création de la coopérative. Puis là, je demanderai peut-être l'aide de M. Dulon, François. Dans ma mémoire, là, on a commencé à discuter de ça quand?
Début novembre.
2024.
Oui.
Alors...
Mi-novembre, je pense, 15-16 novembre.
Alors, dans les, mettons, 7 mois, 8 mois, là, depuis qu'on en discute pour la première fois, il y a eu des offres d'achat qui ont été faites sur la propriété, qui faisaient en sorte que la création de la coopérative, la façon que le comité le voyait, c'était qu'on était en concurrence contre les promoteurs qui voulaient acheter. Il a fallu dire, ben, on va se mettre stand-by, nous, on ne veut pas compétitionner contre le privé, là. Si un privé qui veut l'acheter, tant mieux. Alors, jusqu'à récemment, il y avait encore des offres, pas plus tard que... Je vais dire le mois de mai, là, c'est peut-être même le mois de juin. Jusqu'au mois de juin, il y avait encore des offres qui étaient mentionnées par les propriétaires, comme quoi ils avaient vendu. C'était vendu, c'était accepté, c'était merveilleux. Alors, on souhaitait ça, nous, parce que le comité souhaitait que ça soit pris en charge par un privé. Parce que, entre autres, c'est beaucoup plus rapide, un privé... A plus facilité à l'argent qu'une coopérative qui commence avec, mettons, 200 membres qui ont mis 10 piastres chaque. Puis là, on se retrouve avec, bien là, c'est combien? 2000 piastres? On a 2000 piastres en banque. Puis là, on est capable, bien là, il faut aller chercher des partenaires puis demander des aides financières. C'est ce temps-là là, qu'on parle. Alors, si on crée une coopérative, on va espérer que dans... deux mois et demi, on ait toutes les études nécessaires. Puis ensuite, deux mois et demi plus tard, qu'on ait des partenaires financiers pour réaliser, avant qu'on puisse même penser à acheter. Parce que faire une offre d'achat, si tu n'as pas l'argent en banque, ça donne pas grand-chose.
Non, mais je voyais juste venir. OK, on n'a pas eu à l'été, fait qu'on va-tu l'avoir pour le temps des skidoo ou si vous voyez
je,
encore plus
seulement? J'espère, puis c'est pas politique. La réponse, là, c'est pas le conseil municipal qui va être la coopérative. C'est les citoyens qui vont devenir. Puis c'est non, les citoyens qui vont répondre.
Autres, c'est toujours 6 à 9 mois, ça va être fait. 6 à 9 mois, ça va être fait.
Ouais.
On est rendu,
là, mais c'est un processus qui dure de 6 à 9 mois. Et malheureusement, heureusement, on a vécu des espoirs de voir le commerce redémarrer rapidement par des offres d'achat privées.
Merci.
Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Ça va? Il va y avoir une deuxième période tantôt. Vous allez voir que maintenant qu'on a fait mes rapports et votre période de questions, on va dérouler. On est à quelle page?
7.2.
7.2.
7.1. Bien, la correspondance. 7.1.
Correspondance.
On n'en avait pas.
Bien, il y a. À l'arrière, il y a tous les documents, puis il n'y a pas de citoyens qui ont fait parvenir de correspondance au conseil ce mois-ci. 7.2, délégation à la direction générale d'embaucher des postes vacants. Donc, considérant que l'article 165-1 du Code municipal du Québec permet au conseil municipal de déléguer à un fonctionnaire ou employé non syndiqué le pouvoir d'embaucher du personnel syndiqué sous réserve que les crédits budgétaires soient disponibles conformément aux prévisions budgétaires adoptées, considérant que les personnes embauchées doivent faire l'objet d'un dépôt de liste au conseil, considérant que les membres du conseil ont discuté de cette possibilité et sont en accord avec la délégation, il est résolu que le conseil de la municipalité du Duhamel délègue à la direction générale le pouvoir d'embaucher du personnel syndiqué conformément à l'article 165-1 du Code municipal du Québec sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires et que la directrice générale dépose au conseil une liste des personnes embauchées en vertu de la présente délégation. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui. D'accord.
7.3, implantation d'une nouvelle structure salariale, réévaluation des emplois. Considérant que le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1890, et la municipalité du Duhamel ont formé un comité de maintien d'équité salariale au sens de la loi provinciale sur l'équité salariale, considérant que le SCFP, section locale 1890, et la municipalité du Duhamel souhaitent respecter les principes d'équité interne et donc d'ajuster et repositionner les catégories d'emplois masculins et féminins tout en respectant les résultats du maintien d'équité salariale pour la période débutant le 1er avril 2024, considérant les évaluations des catégories d'emplois réalisées en comité paritaire et considérant la convention collective en vigueur au moment de la signature de la présente entente, il est résolu que le conseil de la municipalité du Duhamel autorise M. Farran, maire, et Mme Liette Kenville, directrice générale, à signer la lettre d'entente nouvelle structure salariale avec le SCFP, section locale 1890, et ce, rétroactif au 30 juin 2025. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
7.4, vente du lot 6 164 885, autorisation de signature. Considérant que la compagnie gestion immobilière Jubainville Inc. a fait une offre d'achat de 100 $ sur le lot 6 164 885, terrain vacant servant à titre de chemin privé, considérant que la municipalité a accepté cette offre, il est résolu que le conseil de la municipalité du Duhamel autorise M. David Farran, maire, et Mme Liette Kenville, directrice générale, à signer le contrat de vente du lot en question. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
Merci. 7.5, congrès FQM. Considérant que le congrès de la FQM se tiendra du 25 au 27 septembre à Québec, considérant que mesdames Denise Corneau et Marie-Céline Hébert, conseillères, participeront au congrès de la FQM, il est résolu que le conseil de la municipalité du Duhamel autorise mesdames Denise Corneau et Marie-Céline Hébert à participer au congrès de la FQM, que les frais d'inscription et les frais inhérents au déplacement et à l'hébergement pour 3 nuits soient remboursés sur présentation des pièces justificatives. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
7.6, ristourne assurance FQM, considérant que le conseil d'administration chargé de la gestion du fonds d'assurance des municipalités du Québec a décidé de verser une ristourne aux municipalités pour l'année 2025. Il est résolu que le conseil de la municipalité de Duhamel affecte la dite ristourne d'assurance au montant de 1 160 $ à la réserve d'assurance, compte numéro 59-13-140-000, surplus ristourne assurance. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
Je vais céder la parole à Denise Corneau pour les points 11.1.
Deuxième tournoi de golf des Chevaliers de Colomb au profit de la résidence Le Mona. Considérant l'invitation reçue pour participer au deuxième tournoi de golf des Chevaliers de Colomb au profit de la résidence Le Mona le 8 août 2025, il est résolu que le conseil de la municipalité du Hamel appuie les Chevaliers de Colomb en tant que commanditaire bronze d'une somme de 300 $ et autorise la dépense à cet effet conformément au budget alloué. Tout le monde est d'accord?
Oui. Oui, merci, Denise. Deuxième période de questions dans la salle. Commentaire? Sinon, oui, M. Claude.
Bonjour. Petit trop, petit Crestu, petit Lac Crestu. On va faire une question. L'Omico, ils vont peut-être avoir l'autorisation de faire récupérer 250 tonnes de roches?
Ils l'ont reçu. Ils l'ont reçu cette semaine. Avec des conditions, là, je vais être franc avec vous. C'était très difficile pour le ministère de le refuser parce qu'ils ont un droit minier, puis ça nécessite d'extraire des échantillons.
Ils vont avoir le pied dans la porte?
Non, pas nécessairement. Il y a plein d'études qui doivent être réalisées pour se présenter devant l'audience publique, le bureau d'audience publique. Là. Et ça fait partie du processus là, qui nous amène inévitablement à une décision du gouvernement, du cabinet des ministres. Là. Et ceux qui pensent que parce qu'on n'entend pas de dynamitage, que le projet est mort, mais détrompez-vous, ça poursuit. C'est une démonstration qu'il y a encore beaucoup d'argent d'investi par l'Omico. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits par l'Omico. Mais ce n'est pas financé par la province de Québec. C'est avec soit leur argent, soit l'argent du département de défense américaine, DOD, ou bien de l'argent du fédéral pour la recherche. Alors, on en est là, et nous, c'est pour ça qu'on ne baisse pas notre attention, notre garde, parce que l'Omico continue à travailler. Oui, ils ont l'autorisation.
La rencontre pour le lac Simon, pour la consultation publique, c'est quand ça?
Le 20 au matin, en même temps que nous, là. Nous, c'est de 10h à midi là, qu'on a mentionné. Alors, je présume que c'est à peu près les mêmes heures que nous. On avait pensé qu'ils pourraient le faire en après-midi, mais ils ont jugé que pour avoir l'intérêt de la population, il fallait que ce soit le matin. L'après-midi, on risquait de perdre l'intérêt pour le lac. Là. Le lac était pour l'emporter sur la rencontre.
Moi, j'ai la réputation maintenant que je recycle bien. Je suis un bon recycleur. J'ai mis mon bac au chemin à un moment donné. J'ai fait une erreur, je l'ai mis proche. Puis il y a un employé qui l'a tassé gentiment. Parce que quand je mets mon bac, il est plein. Puis moi, je trouve que ça me coûte cher. Évidemment, ça me coûte cher. Parce que je mets mon bac peut-être une fois ou huit semaines. Le recyclage une fois ou huit semaines, puis... vidame,
ouais.
C'est peut-être une fois ou trois mois. Ben, je trouve que ça me coûte cher.
Ouais.
Puis j'y ai ici depuis 85. De 85 à 2006, j'étais pas permanent. Les vidanges, mon recyclage, je le rapportais. Puis là, je me suis trouvé un titre. Je suis un RRDB, retraité responsable des vagues. C'est vrai. Je passais autour du lac, là, je passais, puis ceux qui n'avaient rien, je tassais le bac. C'est certain que si le bac est tassé, les bois ou celui qui récupère les bacs, il n'ira pas le chercher, là, il a été tassé, il n'a
ouais.
pas été poussé.
Ouais.
Le c'est... mien, là, il prend ouais. pas la chance de le frapper.
Mais je vais vous mettre en garde. Ce n'est pas tous les citoyens qui vont apprécier que vous fassiez du porte-à-porte pour regarder dans les bacs de chacun. Je ne peux pas vous encourager. Je peux pas vous encourager à faire ça. Là.
Non, mais c'est que dans le comité Bon voisin bon oeil, Bon voisin bon oeil, moi, je faisais le tour de mes... Après la chasse, je faisais le tour, puis je poussais les bacs, je regardais. Je faisais juste pousser les bacs. Puis j'ai déjà posé la question parce qu'il y a un résident qui a déjà pris la place du conducteur. Puis j'ai demandé est-ce que les bacs sont pas mal pleins? Puis c'est, des fois, il y a quoi, deux, trois cannes dedans? Là, ça donne rien de mettre ça au chemin.
Je comprends.
Je recycle bien,
ouais.
Ça me coûte
cher. Oui, je comprends. Je comprends que si vous êtes un utilisateur occasionnel, la bibliothèque peut vous coûter très cher, monsieur. Parce que si vous y allez une fois par année, ça coûte très cher.
Ouais, ouais.
Si votre épouse y va tous les semaines, ouais, c'est une aubaine pour elle. C'est ça, ah, OK, c'est bon.
C'est un petit commentaire de même. Ouais. Moi, je fais attention. J'essaie de... Parce qu'il y a beaucoup d'employés. Moi, je trouve que les employés prennent soin des autres.
Ouais. J'apprécie votre commentaire sur ça vous coûte cher parce que ça me donne l'occasion d'expliquer. Quand sur un compte de taxe, vous voyez un élément comme, exemple, les ordures, sachez que l'administration, dans la préparation du budget, a évalué sur une colonne toutes les dépenses associées au service, le camion, la dette du camion, les employés, le coût de transport jusqu'à la chute, le coût d'enfouissement à la chute. Et donc, il y a un total de ce que le service coûte. Puis l'autre part, c'est de dire comment on va le payer. Puis là, il y a des différentes catégories de citoyens. Les commerces vont payer plus cher que les citoyens. Les campings, ils sont assujettis à d'autres règles. Pour arriver à la fin de se rapprocher de la réalité de ce que ça coûte, bien, on trouve l'équivalent en revenus. Alors, quand vous dites que ça coûte cher, bien, c'est la moyenne de tout ça. Et pour vous, c'est parce que vous en servez peut-être quatre fois moins que votre voisin qui, lui, le laisse là puis dire la municipalité va le vider même s'il est à moitié vide. Ils n'attendront pas deux semaines ou un mois de plus.
Et comme le verre d'eau est à moitié plein ou à moitié vide, un bac à moitié plein ou à moitié vide, il y a un bac de trop.
peut-être. Je vais y réfléchir, M. Claude.
Bonsoir, Daniel Barrier, Lac Gorion. J'ai travaillé pour la ville de 3 ans. J'ai travaillé sur le camion de vidange pour remplacer Adrien. Je peux vous dire qu'en hiver, c'est pas essentiel que le monde mette leur bac au chemin. Ils pourraient le retirer, le mettre auprès du bâtiment ou... Parce que j'ai travaillé avec le ROC, puis je peux voir que j'étais dans des grosses tempêtes de neige. C'était vraiment pas évident d'aller sortir les bacs qui étaient dans le bas de neige ou dans la glace. Peut-être faire une petite attention aux résidents que lorsqu'ils quittent l'automne, qu'ils retirent leur bac du chemin, ça sert à rien de les laisser là, au risque qu'ils se brisent, puis en même temps, ça ralentit la cueillette des vidanges. Merci.
Merci pour votre commentaire.
J'ai une autre question.
Allez-y.
Juste pour continuer ce que vous disiez, le problème, c'est qu'ils sont pleins quand on parle de bac.
Ils sont pleins pour moins vider.
Oui, mais après, je ne reviens plus. Je reviens au mois de mai.
Il y a un service ici en arrière. La personne qui va vider son chalet, qui va fermer son eau, il pourrait venir le porter ici comme plusieurs résidents.
Mais...
Ils n'ont jamais leur vidange au chemin. Il y a mieux mettre leur vidange ici.
Mais je vais vous rappeler, vous allez vouloir dire, madame, et vous allez vouloir prendre la parole tantôt, mais je vais vous dire que les échanges comme vous faites, j'aime mieux que ça soit fait à la fin de la rencontre plutôt que pendant l'assemblée. Parce que là, ça se passe bien, puis on s'entend, mais ça peut déborder facilement si on est en désaccord avec la réponse et tout. Alors, vous parlez, quand vous êtes au micro, vous parlez au maire qui représente le conseil et vous dialoguez avec moi, Puis, si je donne un droit de parole, qui est très rare, je l'ai fait tantôt pour François, mais vous comprenez l'enjeu, OK? Excellent.
L'année dernière, il y avait une patrouille.
Oui.
Elle existe encore?
Est-ce que vous parlez des cadets de la SQ?
Bien, c'était une patrouille, vous avez un numéro de téléphone, le 428.
Bien, si c'était des agents privés, non. Non, ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas l'effectif nécessaire pour rencontrer l'exigence de leur contrat. Alors, on a préféré, si on avait un service à peine réglementaire, là. Okay. Et, il devait être deux, il était seulement qu'un, il devait être...
Je veux juste savoir si ça marchait encore.
Non, mais on a la SQ, on a deux cadets de la SQ, puis on a deux aussi préventionnistes qui font la patrouille nautique et également... la surveillance des mises à l'eau.
Mais comme s'il y a des gens qui font jouer de la musique à tout âge jusqu'à 11 heures, il n'y a rien à faire.
Ben, c'est la SQ. C'est la SQ, malheureusement. Là.
C'est correct, je
sais. Ouais. Merci. Je laisserai mon numéro de cellulaire, mais là, on a... c'est, lac Chevreuil est loin. Hein. Il est trop loin. Madame, vous aviez...
Parce que je fais une fois
par bonne femme. Ah, OK, d'accord. Je voulais pas qu'elle prenne votre place. Là.
Osborne de la Pointe-à-Bâtisse. La Pointe-à-Bâtisse a été asphaltée il y a quelques années.
Oui.
On nous avait dit l'ampleur des travaux qui étaient pour être faits, puis une partie de la pointe, dont chez nous, on ne souhaitait pas nécessairement qu'il y ait
du gravier encore.
Oui. On avait dit que le chemin serait rehaussé pas mal, puis que ce serait peut-être. On a jugé que, d'après les hauteurs que vous avez mentionnées, il y a certaines entrées qui se seraient ramassées ça aurait été très à pic pour sortir de l'entrée. Donc, on a opté dans notre secteur pour ne pas faire asphalter. Par contre, les travaux qui ont été faits, ça a été beaucoup plus minime qu'on pensait, parce qu'il n'y a pas eu là, de rehaussement de la route, etc., etc. Et c'est sûr que la partie qui est maintenant asphaltée reçoit beaucoup moins de poussière. Au fil des ans, quand la partie a été asphaltée, nous, à son Pointe-à-Bâtisse, la partie non asphaltée n'a pas été visitée par la voie poussière, disons, pendant 2 ans. Cette année, on est super contents que ça ait été fait. Par contre, ça a été fait, c'est-tu la fin juin. Au mois de juin, quelque part, au mois de juin.
Oui.
Donc, ça veut dire que tout le mois de mai est... Une bonne partie du mois de juin, il y a beaucoup de poussière. Pour les gens qui sont près de la route, ça veut dire relaver les vitres, le chalet, etc. Puis à chaque fois, c'est sec, c'est toujours à refaire. On se demandait deux possibilités. Est-ce que c'est envisageable soit d'asphalter la deuxième partie, la route de Baptiste, parce que là, on voit que c'est moins.
Plaisant.
Moins
imposant.
Imposant qu'on pensait. Ou de mettre de la poussière au moins 2 fois, c'est-à-dire dès le début du mai, puis de le refaire en juillet.
Ouais. J'entends votre requête, c'est noté, j'entends les options que vous offrez. Je vais vous dire 2 choses. D'abord, par rapport à la poussière, on reporte la poussière tard au mois de juin parce qu'on le fait seulement qu'une fois. Et si on le faisait au mois de mai, qu'on le faisait seulement une fois, on perdrait en cours de route l'efficacité pendant l'été. Alors, le département juge le meilleur temps pour le faire en fonction d'une seule application. Est-ce qu'on peut aller avec 2 applications? C'est pensable, mais il faut être équitable aussi. Vous savez, si on le fait au lac à la Pointe, est-ce qu'on le fait aussi au lac, la Fontaine Sud, où il y a de la bas poussière, là? Alors, il y a cette question-là qui est envisageable par le Conseil. Par rapport à votre deuxième option, celle d'asphalter, on pourrait considérer ça dans le fait qu'on doit refaire une couche d'usure. Alors, parce que faire un petit bout de traitement de surface, c'est quasi impensable de faire venir la machinerie. Il faut que la machinerie soit... local pour des projets d'ampleur, je dirais. Alors, si on le fait, c'est jumelé avec d'autres travaux qui vont nécessiter les mêmes services. Mais c'est envisageable. Et La deuxième option, je dois vous dire, par équité, nécessite une taxe de secteur. Parce que là, c'est une amélioration que normalement vous auriez payé si on l'avait fait lors de la première, lors des premiers travaux. Mais c'est envisageable. On va parler avec vous, avec les gens du milieu, pour savoir qu'est-ce qui est la meilleure solution. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis pour parler.
L'unanimité, c'est que les gens veulent moins de poussière.
Oui, mais ceux qui vont payer, parce que vous, là, vous payez pour l'asphalte des autres.
Ouais.
La question, c'est quand on va leur poser, est-ce que vous êtes prêt à payer pour l'asphalte, la continuité? Pas sûr de la réponse, là, de
nous,
ça.
Nous, on n'a pas eu le choix de payer. Donc, eux autres,
ça ne devrait
pas avoir
le choix. Bien, on avait le choix de la majorité. C'est ça qui est important, c'est d'aller chercher la majorité. Dans une taxe de secteur, le conseil, là, ce qu'il souhaite voir, c'est que le secteur est majoritairement favorable à la taxe. C'est ça l'enjeu. Et on va le travailler, puis on va voir si c'est envisageable. Puis, si c'est pas envisageable, est-ce que l'autre solution de deux traitements est plus envisageable? Vous n'êtes pas la seule. Vous n'êtes pas la seule. Il y a deux sections de votre Pointe-à-Baptiste, là, qui est en cause. Est-ce qu'on en fait rien qu'un, on en fait deux? Est-ce que l'autre le veut ou ne veut pas? Il y a des enjeux de taxation à discuter. Mais c'est envisageable pour nous. Puis la deuxième couche aussi, mais c'est d'avoir les moyens et les impacts financiers de deux applications, qui n'est pas déraisonnable, hein, soit dit en passant. Deux couches, c'est pas déraisonnable. Comme requête, mais on ne l'a jamais fait à Duhamel, deux couches. Mais c'est entendu. Merci pour l'explication. Est-ce que ça met fin à la période de questions? Monsieur Tremblay.
Yves Tremblay. Moi, j'avais eu un petit problème avec Hydro-Québec qui font beaucoup d'érogations. On se pense la vague, ils coupent les airs. Et toutes les branches qui tombent partout, ça se remonte dans les fossés. Est-ce que c'est la municipalité qui va nettoyer les fossés suite aux travaux d'Hydro-Québec qui laisse tomber partout toutes les branches, puis on voit ça partout? On voit beaucoup, là, dans le secteur, sur 20 personnes, ils ont coupé énormément. Puis on a des problèmes beaucoup de, avec l'écoulement des eaux, avec les comptes, tout ça. Fait que, vraiment, qui va prendre action avec Hydro-Québec?
Ma compréhension, je prends note, là. Mais ma compréhension, c'est si les branches et les arbres sont sur un terrain privé, c'est la responsabilité du propriétaire du terrain privé. La municipalité n'ira pas sur les terrains privés ramasser les débris laissés par Hydro-Québec. Si c'est sur l'emprise du chemin, là on peut intervenir.
Oui, moi, c'est surtout le côté chemin que je regarde, parce que les fossés, là... Il y a des fossés qui sont dû être nettoyés, mais ça n'arrive pas, l'Hydro-Québec.
Je prends bonne note. Et d'ailleurs, j'ai eu rapport cette semaine par le ministère, par le département du ministère, je me pense à la Défense nationale, le département ici de la voirie m'a rapporté, et à la direction et à moi, que Hydro-Québec était délinquant dans leur façon de travailler. Endommageait les chemins aussi, parce qu'ils amènent la grosse équipement, débarque en barque. Alors, il y a des discussions qui sont en cours, puis je vais pouvoir vous revenir, M. Tremblay, sur votre question, à savoir qui est responsable.
Et aussi pour l'environnement, parce que sur les ponts, comme vous dites, les camions, ils brisent, puis comme ça, il y a de l'érosion. Ça s'effrite, ça tombe, ça va bloquer les fossés, puis les ponceaux vont débloquer.
Mais je n'ai pas toutes les réponses pour vous ce soir, mais on va vous revenir avec une réponse. Je dois m'excuser aussi avant de conclure, là, que d'abord, il y avait une promesse qui a été faite le mois passé de vous présenter un aperçu de l'impact de l'évaluation foncière. Ceux qui étaient présents le mois passé, puis je pense que c'est M. Dulon qui nous a questionné sur l'évaluation foncière et l'impact de l'évaluation foncière. On a fait du travail, la direction a questionné Servitec. à savoir si on devait et qu'est-ce qu'on pouvait donner comme information, si c'était confidentiel ou pas. Servitec n'était pas chaud à l'idée que M. le maire fasse une présentation, parce que ça va soulever plein de questions et d'interrogations. Mais ça, ça, comme tel, leur inquiétude ne m'a pas arrêté. Ce qui m'a arrêté, c'est que la direction a pris quelques semaines de vacances, Liette Canville, et je me suis dit, avec ce qui s'en vient comme été, les élections, pas les élections, mais le référendum, mais l'inscription à la liste électorale, je me suis dit, je vais sauter un mois. Fait que pardonnez-moi par rapport à ça. Il y avait un autre commentaire le mois passé qui a été fait sur la possibilité...
Les défibrillateurs.
Oui, oui, merci. Sur de reproduire l'implantation de défibrillateurs dans les différents secteurs de la municipalité. Et on a fait des démarches par rapport à ça, là. Et on a encore des démarches à faire, pas tellement à obtenir les subventions, mais à savoir où est-ce qu'on va les mettre et comment on va assurer le bon fonctionnement. Parce qu'un défibrillateur au mois de février, ça ne peut pas être sur le terrain public. Et si on les laisse vaguement sur un terrain public, on va se les faire voler. Alors, il faut bien gérer ça. On a bien fait les choses au lac Doré, vraiment bien, parce que les gens du milieu se sont pris en charge et ont eu une belle collaboration avec la municipalité. Fait qu'on va travailler les subventions, mais en fonction d'avoir une maison d'accueil, je dirais, pour le défibrillateur.
Je suis content d'avoir ça, c'est moi qui devais
proposer. Oui, absolument.
Il y a toujours l'accueil
gagnant,
mais c'est pas chez Clivin, c'est à moitié, on pourrait avoir une cause avec un peu de chauffage dedans. L'implantation, monsieur est pompier, il y en a d'autres ici qui sont pompiers, qui sont les premiers répondants. On peut trouver des solutions un peu...
Tu parles de monsieur est pompier, ben monsieur s'occupe du défibrillateur du lac Doré. Est-ce que je me trompe, okay.
Ben,
alors, ben oui, ça en est un. Ça en est un parmi tant d'autres, parce que au lac Doré, c'est comme un comité là, qui s'est formé pour gérer ça. Mm-hmm. On a une belle entente avec eux, hein, parce que c'est à long terme. L'achat, c'est une chose, mais l'entretien annuel de ça, ça en est un autre. Puis 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard. Fait qu'il faut un parrain, il faut une maison d'accueil. Et on va le travailler parce que les associations comme le lac Iroquois ou le lac La Fontaine sont très éloignées de la municipalité. Et ils sont un petit noyau de 15-20 propriétaires. Un défibrillateur peut faire la différence. Au lac Gagnon, mais c'est peut-être 5, 6, 7 défibrillateurs qu'il faudrait pour tenter de couvrir un pourcentage de la population du lac Gagnon. Alors, il faut y aller.
C'est juste des actions posées pour des actions citoyennes qui peuvent aider, comme vous dites.
Ben,
si on peut sauver des vies, j'ai été poigné du sol, si c'est pas de fun,
ouais.
Si c'est pas sharp.
Le téléphone est long. Alors, c'est pas oublié, c'est pas parce qu'on n'a pas parlé ce soir que ce que vous avez dit le mois passé est oublié. Le dossier se travaille. Mais on va lancer l'appel aux associations, aux regroupements de lacs, aux citoyens du village. S'ils veulent s'apprendre en main, on est là pour les appuyer aussi.
Mais comme je vous dis, c'est la subvention qui est importante, gouvernementale, qui est octroyée. On est citoyen, on n'a plus d'affaires à mettre la main dans notre poche. La main dans notre poche, on peut faire d'autres choses. Mais les subventions indirectes gouvernementales, c'est le but de l'exercice. C'est à mon intervention en vous. De le faire rentrer, de les avoir. Puis rendre ça, c'est juste un peu de bénévolat. Je peux vous donner des idées, on va
attendre
après.
Bien, on a un beau modèle, je vais vous dire. Là. On a des très beaux modèles au lac Doré. Il s'agit juste de faire fructifier ce modèle-là. C'est bon? Alors, s'il n'y a personne au micro, il est 8h-4, je vais passer. Oui, monsieur Claude. Monsieur Claude Tétrault.
Il y avait le fil conducteur qui allait à l'auberge, là, la haute tension, ça passait à travers les branches. Moi, j'ai avisé mon voisin, j'ai appelé l'hydro, puis là, ils ont émondé, beaucoup. Là, ils ont émondé, là, puis c'est ça que je vais vérifier ce soir, je vais vérifier en revenant, s'ils ont laissé des branches dans le fossé. Puis je dirais qu'il était un petit peu. Il y avait avec eux autres une technicienne en foresterie de l'Hydro-Québec. C'est quand même assez surveillé parce que l'Hydro-Québec a des problèmes, c'est donné à sous-traitants.
Ouais.
Puis il y a des malaises de couper qui s'en repoussent plus vite. Là. Je sais qu'ils en ont des documents formels. Puis ça, c'est juste une petite information. J'ai trouvé. Il y a 10 documentaires, 10 émissions sur haute tension. C'est des équipes de monteurs à Saint-Jérôme, puis une équipe de monteurs à Laval. On voit vraiment le travail qu'ils font.
OK.
Ça, c'est le fun à regarder. C'est du vrai québécois.
Sur YouTube.
OK.
C'est vraiment bon.
J'essaierai de me payer une traite.
Ils vont parler de retenue là-dessus. Une retenue, ils disent qu'ils prennent des retenues parce que des fois, j'ai entendu dire que les gars de l'hydro, ça prend du temps qu'ils viennent, mais ils ont des retenues à prendre. Une retenue, c'est que s'il arrive un court-circuit, ça ne réenclenchera pas, ça ne reviendra pas sous tension. Ça, c'est une retenue.
Okay.
Si jamais vous écoutez l'émission, okay. Une retenue, c'est ça.
OK. Merci pour le inside. Sur ce, il est résolu que la séance soit élevée à 19h58. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
Merci, on reste quelques minutes pour vous.